Hello chers auditrices ou auditeurs de Leader Magnétique. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un outil d'accélération pour votre activité en marketing de réseau. Je pense au dispositif de formation, au tunnel de parrainage de Meryl Camus. Avec son regard aiguisé et une analyse fine de votre stratégie de prospection et de conversion de prospects en clients ou en filleuls, Meryl est sans doute le partenaire idéal pour propulser votre entreprise MLM vers de nouveaux sommets. Au cours de notre entretien, Meryl partage un conseil qui est crucial et qui peut changer vraiment toute la donne dans vos relations avec vos prospects. Vous découvrez également la distinction entre le tunnel de vente conscient et le tunnel de vente inconscient en MLM. Meryl dévoile aussi les secrets de quelques chanceux qui parviennent à parrainer jusqu'à 25 personnes chaque mois. Et de plus, vous apprendrez ce qu'est l'or noir, le pétrole d'aujourd'hui, ainsi que de nombreux autres et précieux conseils pour booster votre activité en MLM. Alors ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre activité en machine à succès. Ah super, bonjour Meryl.
Hello Jean-Philippe.
Bonjour Meryl Camus, ben, je suis très très heureux de t'accueillir. Alors on va se tutoyer parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais on se connaît quand même un peu. Et puis on a un trait d'union entre toi et moi qui est ta formation Funnel Network, et on va avoir l'occasion d'en parler. Et donc j'aimerais en fait compte pour nos auditeurs que tu nous aides à clarifier un certain nombre de choses qui peuvent sans exagérer propulser les gens. Parce que moi ça fait un petit moment que je regarde un peu ce qui se passe sur Internet en lien avec le MLM. Mais là, j'arrête de parler parce que je commence à trop parler. Je voudrais simplement savoir, parce que je sais que tu as démarré le MLM avec brio. Tu as réussi à être plusieurs fois leader, top leader dans quelques compagnies. Et alors, on va pas te présenter davantage, mais est-ce que tu pourrais répondre à cette première question? Quelle est la leçon principale que tu as retirée en ayant obtenu ces qualifications?
Très bonne question. J'essaie de te faire une réponse intelligente, mais qui sorte du cœur. La leçon, ça serait de... C'est peut-être un petit peu un détail, mais je vais quand même partir là-dessus. C'est que la plupart des gens vendent leurs produits ou services, ils vendent leur opportunité, ils vendent leurs produits ou services, mais ils ne parlent pas du résultat. C'est comme si je te disais, écoute Jean-Philippe, moi, ce que je vends, c'est simple. C'est un trajet en avion de 12 heures. Alors, on va être un peu serré comme des sardines. Il fera un coup chaud, un coup froid. Il va y avoir un décalage horaire. Mais c'est un très bon avion avec des belles ailes, tout ça. Sauf que là, je suis en train de te vendre l'avion. Je suis en train de te vendre le voyage. Alors, ce qui intéresse les gens, c'est la destination. Tu as envie que je te parle de Bali. Tu as envie que je te parle de la forêt des singes, du volcan, de la plage dans l'océan Indien. Tu as envie que je te fasse rêver de cette île. Et oui, effectivement, il y a un voyage entre deux. Il y a un avion pour y accéder, mais ce n'est pas l'avion qu'on vend. C'est la destination. Donc, si je devais résumer, un truc que j'ai appris dès l'instant où j'ai fait du marketing de réseau à bon niveau, c'est qu'il faut parler aux gens de là où ils veulent aller et pas simplement de tes produits ou services qui sont juste un moyen de les aider à atteindre ce qu'ils veulent atteindre.
Oui, c'est la distinction entre parler des avantages ou parler des caractéristiques.
Oui, tout à fait.
Et ce qui intéresse les gens, c'est les bénéfices, c'est les avantages. Tu as bien raison. Et donc, pour faire le lien avec les tunnels de vente, est-ce que tu penses que les tunnels de vente peuvent mettre l'accent sur la destination?
En fait, dans un tunnel de vente, tu mets ce que tu veux, ça reste un moyen de communication, un moyen de ranger sa vitrine. Et donc, tu peux avoir un excellent tunnel de vente qui met en avant les mauvaises choses. Et comme tu peux avoir des tunnels de vente qui ressemblent à pas grand-chose, mais qui parlent de la destination et qui, du coup, vont fonctionner.
Oui.
Tout ça pour dire que ce n'est pas tant le tunnel de vente en soi, c'est ce que tu vas mettre dedans.
Oui. Alors, tu sais, comme on parle de tunnel de vente, moi, je fais une observation, c'est que à travers tous mes échanges que j'ai avec beaucoup d'entrepreneurs à longueur d'année, je m'aperçois que ce concept de tunnel de vente n'est pas encore dans les mœurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, en dehors même du MLM, hein, qui savent plus ou moins, ou ils en ont plus ou moins entendu parler, mais mais ils savent pas vraiment ce que c'est, ils l'ont pas implémenté dans leur activité. Est-ce que toi, tu observes que par exemple en marketing de réseau, c'est la même chose? Est-ce que finalement c'est une toute petite minorité de marketeurs de réseau qui utilisent les tunnels de vente?
C'est une minorité qui l'utilise consciemment. Parce que la vérité, c'est que l'immense majorité des gens qui font du marketing de réseau utilisent des tunnels de vente. Ils n'en sont juste pas conscients. Parce que quand tu vas contacter quelqu'un sur les réseaux sociaux et qu'après tu continues de fournir du contenu régulièrement et qu'après tu lui envoies une vidéo sur Messenger et puis tu l'invites à un événement présentiel et tu l'inscris et ensuite tu lui vends d'autres produits. Finalement, tout ça, c'est un parcours client, c'est un cheminement, c'est un tunnel de vente. Mais juste pas au sens qu'on l'entend le plus souvent. Et il y a une minorité de personnes qui ont compris vraiment ce que c'était un tunnel de vente, un parcours client, et qui consciemment vont créer un site avec une succession de pages qui reproduit ce parcours-là, mais en étant conscient. C'est-à-dire, étape 1, je convertis ton attention en quelque chose de valeur. Étape 2, je t'apporte d'autres éléments. Étape 3, je te convertis. Étape 4, je te fidélise, etc.
Oui, oui c'est ça. Il y a des étapes et il faut être clair sur quelles sont ces étapes par lesquelles passent les gens. Est-ce que tu penses que est-ce que tu vois une évolution dans le MLM vers l'adoption consciente des tunnels?
De plus en plus, oui.
Oui.
Surtout du marketing d'attraction, prendre un peu de hauteur. Parce que les tunnels de vente, c'est ça, c'est pour simplifier au maximum, c'est un site qui emmène les visiteurs d'un point A à un point B. C'est un site dont le seul but est de transformer les visiteurs en client ou partenaire potentiel. C'est ça un tunnel de vente, c'est un site qui convertit. Et encore faut-il attirer des gens sur son site. Et c'est ça qu'on voit le plus souvent, c'est que maintenant les gens comprennent que aller traquer les prospects comme s'ils faisaient du porte-à-porte, et je sais de quoi je parle, j'en ai fait, c'est-à-dire aller toquer chez les gens, qualifié, pas qualifié, il a dit non, ok, next, et ensuite je passe au suivant, next. Et plutôt que de s'épuiser à aller contacter les gens, à faire des copier-coller, à faire du porte-à-porte comme ça, de plus en plus on voit des entrepreneurs en marketing de réseau créent une marque, en fait, qui apporte de la valeur aux gens, qui apporte du contenu pertinent, vont contacter les gens poliment et maintiennent et créent une relation. Et ensuite, de fil en aiguille, les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Et puis ensuite, ils découvrent leur site et leur tunnel. Et voilà, ils créent vraiment cet écosystème-là. Donc, c'est ça que j'appelle le marketing. C'est pas moi qui appelle ça, mais c'est ça pour moi le marketing d'attraction. C'est que tes clients potentiels et tes partenaires potentiels viennent à toi parce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Et je trouve ça immensément plus puissant et que c'est le bon sens dans lequel aller aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on parle du marketing d'attraction, hein, mais c'est vrai que pour le mettre en musique, pour le mettre en œuvre, c'est autre chose. Et en fin de compte, la clé, si tu me diras si tu es d'accord avec moi, la clé, est-ce que ce n'est pas finalement d'apprendre à agréger des gens autour de soi, à créer une communauté, à l'animer? Et quand on parvient à ça, c'est un peu le Saint Graal, quoi. On est la reine ou le roi du pétrole. Non?
Ouais, la communauté, c'est le pétrole d'aujourd'hui, je suis d'accord.
Ouais.
De réussir à réunir des gens, c'est quoi une communauté? C'est des gens qui se réunissent autour d'un intérêt commun. Et c'est pas j'ai une communauté et j'y passe ma vie, c'est moi, en tant qu'individu complexe qui a plein de son intérêt, j'ai plein de communautés. Et certaines personnes vont s'intéresser au marketing de réseau et également à la poterie et aux arts martiaux et à la moto. Et ils ont chacun un cercle dans lequel ils vont. Quand ils ont envie de parler de poterie, ils vont à tel endroit. Quand ils ont envie de parler de marketing de réseau, ils vont voir telle personne. Et voilà, on a tous une multitude de communautés auxquelles on adhère. C'est le fonctionnement naturel. Et si toi, tu arrives à créer ta communauté, ton centre d'intérêt et d'avoir des gens qui sont là pour entendre ce que tu as à dire ou simplement échanger sur un intérêt commun, alors oui, ça a énormément de valeur.
Tu aurais un conseil à nous donner pour créer une communauté? Quelle serait la première étape?
La première étape, des étapes, il y en a plusieurs. La première, la plus importante, c'est la destination, encore une fois. C'est bien, je suis cohérent dans ce que je dis depuis le début.
Ouais.
Mais c'est d'avoir un idéal commun. En fait, une communauté, je vois ça comme une sorte de montagne à gravir. C'est, OK, voici qui on est. Bah, tu vois, il y a l'identité, je vais y venir. Voici qui on est, voici où on va, et je vous propose d'ouvrir la marche et d'y aller ensemble. Une communauté, ça va quelque part. C'est soit ils vont, c'est une communauté pour devenir des indépendants sur le web, pour échanger des conseils, ou alors c'est une communauté pour perdre du poids, peu importe ta communauté en fait. Mais il y a un but commun, il y a un endroit où on va. Et de cet endroit, ensuite, on décline l'identité du groupe. Ça, c'est peut-être la deuxième étape. C'est de savoir qui on est en fait. C'est quoi notre manifeste? En quoi on croit? Seth Godin parle des gens comme nous qui font ceci. Bah, par exemple, Apple a une communauté, en fait. Toutes les marques puissantes ont une communauté. Apple, c'est une communauté de des gens qui aiment bien l'esthétique, qui aiment bien la performance, qui aiment bien être différents, se sentir un petit peu, oui, c'est ça, différents, marginaux, des génies incompris quelque part. Ça, c'est la communauté Apple, c'est le mouvement Apple. Et je crois qu'une bonne communauté a un mouvement, c'est-à-dire un nom, une identité, des croyances communes, des règles communes aussi. C'est ça, en fait, une communauté. Donc, ça a quelque chose à installer. Alors, soit ça s'installe de soi-même, si les membres sont très actifs, ça dépend de la structure de la communauté. Soit tu as un gourou avec ses membres, ce qui est OK. Soit c'est vraiment une communauté interactive où il y aura quand même des leaders qui vont émerger, mais ça va vraiment être le groupe qui va créer quelque chose, auquel cas, des fois, les règles et l'identité peuvent venir du groupe en lui-même. Donc, voilà ce que je ferais, enfin, les conseils que je donnerais pour créer une communauté, c'est où on va et qui on est, en quoi on croit.
Donc tout commence avec une communauté, mais à l'autre bout de à l'autre extrémité finalement de la démarche, il y a l'offre que on peut proposer, l'opportunité professionnelle que l'on peut aussi offrir, etc. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre selon toi? Et c'est vraiment une question, c'est pas, il n'y a pas une affirmation derrière. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à construire des offres irrésistibles, finalement, pour qu'un tunnel de vente fonctionne bien?
C'est pas le plus important, mais ça arrive très haut sur la liste. C'est-à-dire que, regarde, si tu es à New York et que tu veux ouvrir un stand de hot dog, c'est dans le cliché, c'est quoi qui va être le plus important? Qu'est-ce qui va faire que tu vas éclater tes concurrents? Certains vont dire c'est l'emplacement. Les pros immobiliers vont dire c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. D'autres comme moi et peut-être toi, on va être un peu influencé par notre aspect marketing. On va dire, ah bah, il faut une offre irrésistible avec un menu hot dog, avec de la mayo, des produits de qualité, machin, machin. On va penser expérience client, on va penser offre irrésistible. La vérité, c'est que avant même d'avoir une offre irrésistible, avant même d'avoir un bon emplacement, le truc dont tu as besoin, c'est d'une foule de personnes qui ont faim. C'est-à-dire que tu peux avoir un emplacement minable. Si tu as une foule de personnes qui crèvent la dalle, ils viendront chercher tes hot dogs, même s'ils sont mauvais. Et je te prie de croire que quand j'étais étudiant, qu'on sortait de boîte à 4 heures du mat, il y avait un kebabier qui était loin, mauvais emplacement. Honnêtement, ils n'étaient pas super bons. Mais quand tu es étudiant, que tu es alcoolisé, qu'il est 4 heures du mat, qui est samedi soir, dimanche matin, bah tu prends ce qu'il y a parce qu'on est une foule de gens affamés. Donc c'est en cet ordre-là qu'il faut avoir. C'est une foule affamée, une offre irrésistible. Et un bon emplacement, c'est-à-dire une bonne source de trafic, une bonne force de persuasion, quoi. Ça fait sens?
Oui, tout à fait. Ça pose la question de finalement de comment on cible très finement un marché, sa cible, son
Mais
public, son
c'est possible
audience.
de ne pas avoir une foule affamée, parce que si tu en as une, c'est trop bien, tu as de la chance ou tu as du flair. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je n'estime pas avoir une foule de gens affamés. Du coup, il faut que je crée un bon produit, il faut que je crée une offre irrésistible. Et si mon offre n'est pas résistible, c'est pas grave, je peux quand même bien fonctionner, mais il va falloir que je sois très fort en persuasion. C'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si j'ai un super produit, je n'ai pas forcément besoin d'une grande force de persuasion. Si mon produit est moins bon ou autre, alors là, il va falloir que je le mette beaucoup plus en avant pour le vendre. Mais encore une fois, si j'ai une foule affamée, j'aurai ni besoin d'une excellente offre, ni besoin d'une super force de persuasion, parce que les gens seront là de toute façon.
En fait, rapporté au MLM, est-ce que cela veut dire que il faut choisir des produits qui résolvent des douleurs extrêmes, pour être un peu excessif?
Idéalement, oui, mais disons que ce n'est pas le seul critère à évaluer. Effectivement, si tu choisis une compagnie, il y a des produits qui se vendent probablement mieux que d'autres. Il y a une sorte de tabou là-dessus. Non, les produits ne se vendent pas tout seuls. C'est vrai, mais il y a quand même des produits où il y a un marché plus important, où il y a une demande plus importante. Tout ce qui est service, un service financier, Ça demande moins d'efforts que d'acheter un consommable, etc. Mais ce n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Parce que derrière, il y a aussi comment tu fidélises ta clientèle, comment tu engages des gens, dans le sens de les faire passer à l'action. Il y a, enfin, dans le choix d'une compagnie, il y a plein de critères et de sous-critères qui fait que ce n'est pas la seule variable à prendre en compte. Pareil, en fait, mieux vaut une compagnie avec des produits plus difficiles à vendre, selon moi, mais qui démarre dans ton pays, plutôt qu'une compagnie qui a des produits super faciles à vendre, mais qui est installée depuis 20 ans, il n'y a pas de momentum. Parce que là, à ce moment-là, il y a aussi une notion de timing. Donc, je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, je ne dis pas qu'il faut se jeter sur les nouvelles compagnies, surtout pas, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il n'y a pas que un bon produit ou un produit qui se vend bien et le besoin du marché. Il y a aussi une question de timing, une question de sérieux de la boîte, une question des dirigeants, une question du plan de compensation. Un plan de rémunération, il est ni bien ni mal. Il y en a certains qui rémunèrent beaucoup les grands leaders, et c'est très bien. D'autres qui rémunèrent beaucoup plus les personnes qui démarrent, et c'est très bien aussi. Il faut juste voir où tu veux mettre le curseur. Il y a des personnes qui cherchent une compagnie ultra fiable pour les 30 prochaines années, où ils vont peut-être espérer gagner 500 à 2000 euros par mois en complément de revenus, ils sont très contents. D'autres préfèrent une compagnie plus risquée qui va peut-être tenir 2 à 5 ans, c'est le jeu, mais ils peuvent faire le coup d'un siècle et ensuite se reconvertir ou autre. Je suis pas là pour juger, je dis juste que c'est deux dynamiques différentes et qu'encore une fois, ça dépend de tes critères.
Bien sûr, ouais, c'est intéressant parce que le choix d'une société MLM engage l'avenir et faut être clair sur ce que de la destination là aussi, faut
D'où
savoir où
l'intérêt
on va.
d'avoir une communauté, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de fédérer les gens autour de ton véhicule, de ta compagnie de MLM. Le but, c'est de fédérer des gens autour de toi, de tes croyances, de là où tu veux les emmener. Ce qui te permet, si jamais la compagnie MLM, bah, ton partenaire fait de la merde, ça peut arriver. Excusez-moi, ça arrive qu'il y ait des compagnies qui, le leadership change le plan de rémunération sans te prévenir. Voilà, ça arrive. Ou alors, ils ferment ou ils ont un problème. Eh bien, si tu as fédéré ta clientèle et ton équipe autour de cette compagnie-là, bah quand tu vas déménager, tu n'auras personne qui va te suivre. Tandis que si tu as fédéré autour de toi ton mouvement, tes valeurs, tout ça, tu vas dire, bah écoutez, voici ce qui se passe, voici ce qu'on pense faire, on pense qu'il faut déménager, qu'il faut changer de partenaire, de fournisseur. Et donc là, tu vas avoir plus de gens qui te suivent. Ce n'est pas le discours habituel qu'on entend en marketing de réseau. Là, je suis en train de vous parler de comment changer de compagnie, de si ça se passe mal et tout. C'est peut-être un petit peu dérangeant d'entendre ça. Mais c'est ce que je crois. Il vaut mieux fédérer pour soi. Et puis le scénario idéal, c'est tu fédères autour de toi et tu restes avec la même compagnie pendant 40 ans et ça se passe très bien. Ça arrive aussi. Juste, c'est plus intéressant de fédérer sur la communauté, sur ses valeurs, que
Oui,
sur le véhicule, encore une fois.
c'est peut-être un des conseils les plus précieux que tu viens nous donner depuis le début de cet entretien. C'est
Bah, faut le temps que je
de
me chauffe, hein, Jean-Philippe.
non, mais c'est intéressant parce que en fait, de communiquer de façon très focalisée, très concentrée sur une marque de MLM. Qu'est-ce qu'on fait après si jamais, soit on la quitte, soit elle arrête toute la communauté que l'on a. Pour laquelle on a consenti énormément d'efforts, ben elle va nous percevoir comme quelqu'un de qui n'a pas trop de suite dans les idées parce que malgré tout c'est nous qui serons un peu incriminés plus que l'entreprise qu'on défendait, tu vois. Et ça
Tout à fait.
c'est intéressant de noter ça.
Puis même, ça ne fonctionne pas de toujours parler de tes produits. En fait, il y a une erreur que font beaucoup de distributeurs en marketing de réseau. Et j'étais le premier à le faire pendant super longtemps en plus. C'est que tu parles des produits, ah, il y a une promo, il y a une flash, ah, et puis il y a ça à gagner, et puis mon opportunité, tout ça. Tu parles tout le temps de ça. Mais en fait, ça va concerner 5% des gens. 5% des gens qui sont déjà clients ou qui envisagent sérieusement de le devenir. Mais 95% des gens, ils n'en sont pas au stade de se dire, ah, j'ai envie d'acheter tel produit ou service. Ils n'en sont pas encore là. Ils ne sont pas encore conscients de ça. Les gens ne veulent pas que tu leur parles de tes produits, ils veulent que tu leur parles des problèmes qu'ils rencontrent, de comment apporter de la valeur au quotidien. Pour reprendre la métaphore, les gens ne veulent pas une perceuse. Ils veulent un trou dans le mur. Il y a trop de distributeurs MLM qui sont, ah, ma perceuse, elle a un forêt de 1,3 mm. Et c'est en plus, c'est un forêt, un métal assez, assez rare et tout, qui fait que, oh là, c'est impeccable. Et quand tu appuies, eh, 3 volts, hein, 3 volts, j'en sais rien, 3 volts, et ça tient à batterie. Bref, ils vont te décrire la perceuse idéale. Oh, c'est trop cool. Mais les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un trou dans le mur. En fait, mieux que ça, ils ne veulent pas un trou dans le mur. Ils veulent accrocher un cadre. Mieux que ça, ils veulent mettre une photo dans le cadre qui va faire en sorte que quand leurs amis vont venir chez eux et voir ce cadre avec leur photo de famille ou leur portrait, ils vont se dire « Ah, il a bon goût. Ah, il est chaleureux. Ah, c'est quelqu'un de respectable. » Au final, les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent l'émotion qu'ils vont véhiculer.
Ouais, c'est vrai que c'est un travail de réflexion qu'il faut mener sur tous les produits qu'on peut vendre, produits ou services, et c'est quoi la finalité, si je puis dire ça comme ça, finale. C'est bizarre de dire finalité finale, mais c'est un peu l'idée. C'est
J'ai
quoi
failli appeler mon business le Final Network.
Oui.
Non, je plaisante, je plaisante. Mais c'est vrai, parce que tu peux parler des produits, mais c'est en conséquence. En gros, vous voulez un cadre, vous voulez véhiculer des émotions à vos amis, vous voulez échanger un moment de convivialité, tout ça. Parfait, voici comment on pouvait faire, voici comment ça se passe, tout ça. Et il s'avère que pour faire un trou dans le mur, accrocher ce cadre, eh bien, nous avons la meilleure perceuse. Faites-nous confiance. Mais tu vois, ça arrive vraiment en... Vous voulez ça, bah, il s'avère que j'ai un produit. Et non pas, j'ai un super produit et ça peut vous aider à faire ci, ça, ça, ça. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais c'est vraiment concentré sur le résultat plutôt que le produit. Et donc, ça marche quand tu parles de ta compagnie actuelle. Les gens ne devraient pas te suivre parce que tu es dans telle ou telle compagnie. C'est, vous me suivez pour moi, ou en tout cas les valeurs, le mouvement, la communauté. Aujourd'hui, nous estimons que par rapport à nos croyances et à nos valeurs, tel partenaire est le meilleur partenaire qu'on puisse avoir. C'est pour ça qu'on vous le recommande. Si demain ça change, on vous recommandera quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir confiance en notre intégrité.
Ouais, ça c'est très intéressant. Alors ça fait partie de tes enseignements dans Final Network.
Oui, j'en parle, oui, tout à fait.
Alors on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais Final Network en fait c'est une formation très conséquente sur l'art et la manière d'implémenter un tunnel de parrainage ou un tunnel de conversion, un tunnel de vente, peu importe, dans son activité de marketing de réseau. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce dispositif de formation?
En fait, c'est parti d'un constat il y a quelques années, parce que ça fait déjà un paquet de temps. C'est que plus que le marketing de réseau, ce que j'adorais, c'était enseigner, vendre et aider les gens à adopter la même vision que celle que j'avais, leur faire voir ce que je voyais. Donc, je me suis passionné pour le marketing, marketing digital, business en ligne, mais je n'avais pas forcément de produits ou services à proposer. Et d'autre part, je voyais plein de confrères, plein de camarades qui faisaient du marketing de réseau, qui avaient des super produits au service, qui correspondaient à un besoin, une foule affamée. Et voilà, ils avaient ça entre les mains, mais ils ne savaient pas le mettre en avant sur Internet, c'est-à-dire le marketer. J'ai simplement croisé ces deux univers, marketing digital et marketing de réseau, et ça a donné le funnel network. Je l'appelais comme ça parce que network marketing et funnel, c'est entonnoir de vente ou tunnel de vente à l'américaine. Le but de ce programme et de toute la vision qu'il y a derrière, c'est d'enseigner aux distributeurs MLM comment transformer des prospects en clients ou distributeurs grâce à une séquence qui s'appelle un tunnel de vente. Et ça passe par des conseils marketing comme ceux qu'on a abordés aujourd'hui, des petits changements de vision qui changent tout, à comment créer du bon contenu, comment installer des pages pour transformer des visiteurs en clients.
Quels sont les résultats? Comment globalement, évidemment, que deviennent tes clients en fin de compte, une fois qu'ils ont suivi ce parcours, hein, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce que tu recueilles des données quantitatives pour savoir ce qu'ils deviennent?
C'est une très bonne question de me brancher sur les résultats, vu que c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, la destination plutôt que le voyage. Alors, je n'ai pas une archive, hein, je suis pas l'INSEE. Par contre, j'ai un dossier qui s'appelle témoignages, feedback, etc., où j'ai plein de témoignages clients écrits ou vidéos. Ce qui revient souvent, c'est deux choses. Enfin, il y a un double voyage, en fait. C'est que les personnes qui rejoignent le Funnel Network, ce sont des distributeurs MLM qui ont une vision, qui veulent se développer. Ils aspirent à être plus, à devenir potentiellement des leaders, à améliorer leur qualité de vie en ayant des commissions plus conséquentes. C'est tout à fait OK. Ça, c'est le point de départ. Une fois qu'ils sont passés par le Funnel Network, eh bien, ils arrivent à une destination qui est, je parviens à parrainer en automatique. Les gens viennent à moi plutôt que je m'embête à aller les chercher. Je parraine plus, j'ai davantage de commissions. Et dans certains cas, ils gagnent même des voyages, parce qu'il y a plein de challenges qui sont lancés souvent dans les compagnies, quand tu recrutes, etc. Tu obtiens des avantages en nature, des voyages et tout ça. Ça, c'est la finalité apparente, c'est la surface immergée de l'iceberg. La vérité, c'est que non seulement les clients ont cet accomplissement-là et du coup ont un changement drastique, mais surtout, ils deviennent une nouvelle personne au cours du processus. À la fin du programme, en plus d'accomplir ça, ils deviennent des personnes plus confiantes, avec des nouvelles compétences. Ils savent mieux structurer leurs pensées, mieux argumenter. Ils ont une meilleure vision du marketing. Et au-delà de ça, ils ont une meilleure confiance en eux, ils sont plus fiers et ils sont prouvés à eux-mêmes qu'ils pouvaient construire quelque chose de A à Z et s'en sortir. Au final, ils deviennent un signal pour eux et leur communauté que c'est possible d'y arriver, quel que soit l'endroit dont tu pars. C'est ça le vrai message du funnel network.
Ah oui. Et depuis le début, à la louche, est-ce que tu as en mémoire combien de personnes tu as eu l'opportunité de former?
En fait, ça dépend si tu comptes le funnel network, qui a un programme phare, d'une vingtaine d'heures avec des coachings, etc. Et après, il y a plusieurs formations annexes qui gravitent autour
Oui,
de cet écosystème pour développer des compétences.
Oui, oui.
La louche, c'est quelques milliers de clients, si on compte tout, sur le programme phare, peut-être 500.
Oui,
Sachant qu'après, j'ai développé d'autres programmes de coaching plus avancés, etc. Mais c'est sur le funnel network qu'on est dans cet ordre-là.
Oui. Alors, je trouvais que le clou de ce dispositif de formation, enfin le plus précieux, c'était les coachings hebdomadaires. Et je dis pas ça par flagornerie, mais parce que j'y ai assisté, donc je peux en parler. Mais tu as un œil laser, en fin de compte, sur ce que les gens mettent en place quand ils créent un tunnel. Tu vois des détails qui tuent et que personne d'autre que toi voit. Mais quand tu en parles, ça devient évident. Et je trouve que ça montre à quel point un coaching est si important dans une formation. Parce que ne se contenter que de regarder des vidéos, ça n'implique pas qu'on puisse l'implémenter très parfaitement dans son activité. Et ça nous laisse quand même avec des tas de questions. Alors que quand on fait ce coaching hebdomadaire, on a un feedback très personnalisé sur ce qu'on a mis en place. Et avec l'œil laser que toi tu as, je dois dire que c'est très enrichissant. Voilà. Enfin, je voulais le dire rapidement parce que c'est objectivement la réalité. Et,
Merci pour ça.
mais tu es un vrai coach en fin de compte. Est-ce que t'as des projets de faire du coaching par ailleurs, à un autre niveau, dans d'autres domaines?
C'est une question?
Oui.
Oui. C'est-à-dire, de plus en plus, je réalise que l'information ne suffit pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut. C'est pas il faut, je ne vais pas mettre d'impératif. Mais un programme de formation sans accompagnement, sans interlocuteur, c'est super complexe parce que tu passes à côté de petites erreurs. C'est comme apprendre le karaté avec des cours en ligne. Bon, bah, c'est bien, mais bon, t'as pas ton entraîneur qui vient te corriger parce que t'as la jambe
Et
fléchie
oui,
ou parce
bien
que tu ne
sûr,
vois pas.
bien
Donc, ça,
sûr.
c'est crucial.
Ah ouais.
Et donc, ouais, moi, je crois de plus en plus à l'accompagnement. De toute façon, c'est quasi obligatoire maintenant si on veut des succès. Et même quand je regarde les clients qui ont le plus de résultats, quand je vois ceux qui sont à 25 parrainages personnels par mois, personnels, ou ceux qui ont fait 100 parrainages personnels, encore une fois, en l'espace de 5 ou 6 mois, j'ai plusieurs histoires comme ça. À chaque fois, ce sont des personnes qui sont venues au coaching commun. Il y en a qui ont fait leur bonhomme de chemin sans les coachings, ou alors peut-être en regardant les replays, mais ils sont plus rares. Et surtout, ce sont des gens qui avaient déjà un bagage en général. Ce n'est pas des gens qui démarraient de zéro, qui venaient de découvrir le marketing de réseau. Ils avaient déjà une expertise. Donc là, ils ont besoin de moi plus ponctuellement, ils sont plus autonomes peut-être aussi. Donc il y en a, mais majoritairement, ça fait une différence. Alors est-ce que j'ai des projets de coaching? Oui, en fait, j'ai réalisé que dans le funnel network, le cœur de ce que je pouvais apporter, c'était le storytelling en fait. Ou comment faire voir aux gens ce que toi tu vois par le biais des histoires, comment changer les croyances des gens, c'est une compétence clé. Et à chaque fois, on pouvait parler de tunnel de vente, de technique, tout ça. Le vrai cœur du sujet, c'est comment délivrer un message qui fait tilt dans la tête de tes interlocuteurs. C'est ça le storytelling. Donc c'est ce sur quoi je me consacre le plus aujourd'hui. C'est mon axe de recherche de prédilection. Et effectivement, c'est là-dessus que je commence à orienter à mes services de coaching et de consultant.
C'est vrai que c'est d'une efficacité monstre de savoir raconter son histoire personnelle et aussi bien l'histoire des autres. Il y a voilà, c'est de la narration au sens quasi littéraire du terme, mais pour autant sans être grammairien ni professeur de lettres. C'est
Fait.
adopter des structures qui finalement touchent le cœur des gens.
Et même dans le marketing, c'est pas juste raconter une histoire, c'est aussi s'inviter dans l'histoire que se raconte son prospect. C'est-à-dire que ton prospect, c'est le héros de sa propre histoire. Alors attention, là, ça va peut-être partir sur une parenthèse un peu littéraire, tout ça. Non, il n'en est rien. Ton héros, il a son histoire, il a son cheminement, il a des désirs, des aspirations et il veut éviter le scénario catastrophe. Là, la vraie question que tu te poses, c'est quel est mon rôle dans l'histoire de mon prospect? Bien, ton rôle, c'est d'être le guide pour lui, d'être celui qui va lui passer le flambeau, d'être celui qui va l'orienter. C'est le rôle que tu joues dans l'histoire de ton prospect et tu vas l'aider à vivre les deux voyages dont j'ai parlé tout à l'heure. Le voyage de l'accomplissement de ses désirs et le voyage de transformation identitaire. Voilà. C'est juste pour glisser ça là, mais le storytelling a sa place même en marketing. Même si tu ne sais pas raconter d'histoire, si tu comprends l'histoire que se raconte ton prospect, ça change tout ton marketing.
Ouais, c'est vraiment une des clés du succès en marketing digital. Alors,
Même
tu
en
parlais.
marketing de réseau, excuse-moi, je me permets une parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de distributeurs MLM, de représentants, de leaders, qui pensent qu'ils sont le héros de l'histoire. Vous n'êtes pas le personnage principal, les amis. Le personnage principal de l'histoire, ce sont vos clients ou vos futurs recrues. Et vous êtes simplement le guide qui va leur montrer le chemin. Et quand vous comprenez ça, vous faites sauter votre syndrome d'imposteur. Vous arrêtez de vous dire, oh, mais je gagne que 250 euros par mois de commission. En quoi suis-je légitime pour parrainer un top leader? Mais tu es légitime parce que tu es un guide touristique. C'est pas parce que tu n'as pas gravi l'Everest que tu peux pas montrer le chemin de la montagne à quelqu'un qui veut gravir. Tu peux montrer la direction, tu peux présenter quelque chose, tu peux faire l'intermédiaire. Tu es un guide dans l'histoire de ton héros. Voilà, parenthèse fermée pour lever cette croyance que je vois souvent.
Mais ça me rappelle aussi l'idée, enfin c'est l'importance qu'il faut accorder à la posture psychologique. Hein. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. On pourrait un jour en reparler. On pourrait un
Tu
jour en
voulais me
reparler.
demander quelque chose juste après. Je
Alors
t'ai coupé.
j'ai noté à l'instant que tu disais que y avait des personnes qui parrainaient jusqu'à 25 filleuls par mois. C'est presque monstrueux parce que il faut s'en occuper de ces 25 personnes, mais est-ce que c'est 25 personnes tous les mois?
Certains, oui, mais ce n'est pas la norme. Il y en a, je te dis, 100 personnes, un peu plus d'ailleurs, 100 personnes en 5 mois. Ça fait ouais, 25 personnes par mois, un peu moins, 20, je ne sais pas. Mais
À titre
c'est pas la
personnel.
norme. À titre personnel, ouais, à titre personnel. Mais ce n'est pas la norme. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ou en tout cas les distributeurs qui ont une vision plus long-termiste ou une stratégie différente, je crois que 5 parrainages personnels par mois max, c'est un très très bon rythme. Parce qu'après, effectivement, il faut former ces gens-là ou alors s'occuper de ses clients. Ça a une valeur aussi de s'occuper de fidéliser sa clientèle. Donc, je ne suis pas pour battre tous les records et parrainer 100 personnes par mois. Ça n'a pas de sens. Certains le font parce que derrière, ils mettent en place une structure, une formation en ligne pour aider les personnes de manière avec une mise à échelle possible, décorrélée de leur temps, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a des structures. Il y en a aussi, ça fait 10 ans qu'ils sont entrepreneurs, ils ont quelques bons réflexes. D'autres non, mais bon, là, c'est au cas par cas. Ça reste assez marginal.
Combien de temps faut-il pour bâtir un tunnel de parrainage bien calibré, fonctionnel?
C'est comme si tu me demandais, je remets la question en contexte, c'est comme si tu me demandais combien faut-il de temps pour résoudre une équation au second degré. Si tu es un élève de CE1, il va te falloir une dizaine d'années avant d'arriver au niveau pour pouvoir la résoudre. Si tu es professeur à l'université, ça va te prendre 3 secondes. Donc pour monter un tunnel de vente, c'est la même chose. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as déjà lu des bouquins de développement personnel? Qu'est-ce que tu connais au marketing? À quel point tu es prêt à t'engager à t'investir? Est-ce que tu es travailleur? Est-ce que tu arrives à te concentrer plus de 20 minutes sans regarder ton TikTok? C'est pour ça qu'il y a vraiment toute une foule de critères. Maintenant, pour donner une réponse quand même, la formation est pensée pour se suivre en 1 mois. 30 jours pour monter son tunnel de vente. Excuse-moi. En fait, ce n'est pas on met 30 jours non-stop à monter son tunnel de vente, c'est le programme fait une trentaine de jours à raison de 1 à 2 heures par jour. Et le tunnel de vente, on le met en place qu'après une dizaine de jours seulement. On ne commence pas au jour 1 à bidouiller sur des logiciels de tunnel de vente qui au début peuvent faire peur alors que pas du tout. Avant de faire ça, bah, il faut déjà savoir à qui je m'adresse, quel est mon marketing, qu'est-ce que je vends, quelle est mon offre, etc. Il y a un travail à faire en amont. Donc, un tunnel de vente, en vérité, ça, quand tu es rodé, ça se fait en 2-3 heures. Quand tu l'es moins, ça se fait en 2-3 jours. Quand tu es un total novice, ça se fait en 2-3 semaines. Mais ce qui est le plus long, ce n'est pas d'installer un tunnel de vente, c'est de savoir quoi mettre dedans, quelle stratégie adopter. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation, parce que sans les bonnes informations, sans les bonnes stratégies, là, ce n'est pas 2-3 semaines, on parle de 2-3 ans. Donc, le but, c'est de vous faire gagner du temps.
Oui, bien sûr. Ouais. Quels sont les outils que tu recommanderais pour construire un tunnel?
Son cerveau, déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Non, allez, je suis médisant. Alors, c'est pas très intemporel de donner les outils comme ça ici sur l'enregistrement, mais j'aime beaucoup System.io, qui est un outil français relativement accessible. On parle d'une trentaine d'euros par mois pour tout faire, tout faire, gérer les clients, la formation en ligne, les tunnels de vente. Je parle de formation en ligne parce que quand on recrute, c'est bien de les former. On veut pouvoir communiquer des vidéos pour envoyer les emails aussi. Voilà, tout est inclus dans System.io. Donc, c'est mon dada que je recommande. Après, il y a toujours possibilité d'optimiser, d'utiliser d'autres logiciels, tout ça. Mais grosso modo, vous avez juste besoin de ça. System.io et Calendly. Calendly, c'est l'outil qui vous permet, vous savez, pour prendre des rendez-vous de manière assez simple. Hein, donc, réseaux sociaux plus System.io plus Calendly. N'avez pas besoin de beaucoup plus.
Ok. Ben, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai en dessous de l'audio ou de la vidéo un lien qui dirige vers Funnel Network. Voilà ça. Parce que tu proposes une conférence d'ailleurs, qui est une conférence gratuite, qui donne les tenants et les aboutissants de comment on construit un tunnel de parrainage ou un tunnel de vente. Donc voilà, pour ceux que cela intéresse, ça peut être très très utile. C'est une bonne matière, une bonne entrée en matière. Et pour conclure vraiment, Meryl, c'est qui l'auteur en marketing qui t'a le plus inspiré ces dernières années?
Russell Brunson,
Ah ben oui, et oui.
c'est le fondateur de ClickFunnels. Alors, c'est le concurrent de System.io pour le coup, donc ça peut paraître
Ouais.
incohérent, mais il n'en est rien. Russell Brunson, qui est une sommité du marketing aux USA, quelqu'un de très humble, super philosophie. Il est mormon, donc personne n'est parfait. Mais Russell Brunson est adorable et c'est un maître du storytelling, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Meryl. Et j'espère peut-être une autre occasion de se parler sur un autre sujet.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Philippe.